Le journal vous est présenté par Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. Le président du Mali a démissionné cette nuit après avoir été arrêté par des militaires. Comment s'est déroulé le coup d'État hier? Que peut-il désormais se passer dans ce pays? L'un des plus pauvres du monde est confronté aux attaques djihadistes. Toutes les précisions dans une minute.
La situation politique en Biélorussie inquiète aussi. Le président français Emmanuel Macron demande à son homologue russe Vladimir Poutine de favoriser l'apaisement et le dialogue. Un sommet européen extraordinaire est prévu aujourd'hui.
C'est un cas d'école de biais algorithmique, une formule utilisé au Royaume-Uni pour noter les bacheliers a fait polémique. Des inégalités ont été accentuées. Le gouvernement britannique a fait marche arrière.
Le masque sera obligatoire dans les entreprises, y compris dans les open space. Cette mesure entrera en vigueur le 1er septembre. Elle suscite beaucoup de questions chez les salariés.
Les hôpitaux des Bouches-du-Rhône activent le plan blanc. L'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur réagit face à la hausse des contaminations au coronavirus.
Frappés par la crise économique liée à la crise sanitaire, les acteurs du monde de la culture seront reçues à partir d'aujourd'hui par la ministre Roselyne Bachelot.
Et nous y reviendrons à la fin de ce journal. En 24 heures, la situation politique au Mali a été bouleversée. Des militaires ont arrêté le président du pays, contesté et fragilisé depuis plusieurs mois, et pris le pouvoir. Alors, sous la contrainte, Ibrahim Boubacar Keïta a démissionné cette nuit à la télévision nationale. Bonjour Bertrand Galichet.
Bonjour Margot.
Que sait-on de ce coup d'État ?
Il a commencé hier matin à une quinzaine de kilomètres de Bamako, dans la caserne de Kati, où une mutinerie a éclaté. Après des coups de feu tirés en l'air, les rebelles ont pris le contrôle de la garnison, puis se sont dirigés vers la capitale, où ils ont été acclamés par des manifestants en place de l'indépendance, l'épicentre de la contestation au Mali. Les militaires sont allés à la résidence du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui a été arrêté, de même que son premier ministre. Les deux hommes ont ensuite été emmenés au camp de Kati, jusqu'à cette déclaration du chef de l'État malien à la télévision, annonçant dans la nuit et sous la contrainte sa démission. Le contexte est tendu depuis les législatives du printemps dernier. Une opposition hétéroclite s'est constituée qui regroupe opposants politiques, personnalités civiles et chefs religieux. Tous demandaient le départ du président.
Les militaires affirment vouloir mettre en place une transition politique civile. À quoi peut-on s'attendre ?
Eh bien, ce matin, les militaires rebelles, qui s'intitulent le Comité national pour le salut du peuple, sont intervenus à leur tour à la télévision, expliquant que le Mali sombre de jour en jour dans le chaos, l'anarchie et l'insécurité par la faute des dirigeants du pays. Ils dénoncent le clientélisme, la gabegie, le vol et l'arbitraire, ainsi que le développement du terrorisme et de l'extrémisme. Les putschistes promettent des élections générale dans un délai raisonnable. Ils assurent aussi vouloir respecter les accords internationaux. Un message adressé à la France qui a déployé, vous le savez, 5000 hommes au Sahel, car les condamnations à l'étranger sont unanimes. Les pays de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest ont fermé leurs frontières. Une réunion du Conseil de sécurité aura lieu aujourd'hui et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, réclame la libération immédiate du président déchu.
Bertrand Galichet. Et l'histoire semble se répéter au Mali, comme l'explique le chercheur Baba Dakono de l'Observatoire citoyen sur la gouvernance et la sécurité.
Le pays a déjà connu une histoire comme ça. En 2012, le coup d'État avait été opéré par des militaires qui avaient pensé gérer le pays de façon unilatérale, mais qui ont été obligés d'ouvrir cette gestion-là aux acteurs politiques. Je pense que le même scénario pourrait être envisagé cette année. C'est que dans tous les cas, les militaires, pour pouvoir gouverner, vont être obligés de composer avec les politiques. On est dans un pays où le fonds social est en ébullition depuis quelques années. Donc, il va falloir un minimum de consensus, donc de gestion consensuelle pour faire baisser cette tension sociale-là. Et on ne pourrait l'obtenir que dans une certaine forme de collaboration avec toutes les forces vives de la nation malienne. Si d'aventure on croit encore à cette question d'homme providentiel, ça va être extrêmement difficile parce que les problèmes de gouvernance qui sont à l'origine de la chute du président Keïta sont beaucoup plus profonds. Aujourd'hui, nous avons une crise d'État, une crise de confiance entre les gouvernants et les citoyens, une crise de confiance entre les politiques et les citoyens. Donc, tant que les solutions n'ont pas été apportées, on serait presque dans ce cycle de répétition.
Le chercheur Baba Dakono, joint par Valérie Krova. La Biélorussie est aussi secouée par une crise politique. Les 27 se réuniront tout à l'heure pour un sommet européen extraordinaire consacré à ce pays, dirigé depuis 1994 par l'autoritaire Alexandre Loukachenko, réélu avec 80% des voix il y a 10 jours. Hier, les leaders européens ont appelé son voisin, le président russe Vladimir Poutine, à faire pression sur Alexandre Loukachenko pour le pousser au dialogue. Les deux hommes sont alliés et très proches. La Biélorussie est un quasi-satellite de Moscou, du moins au niveau économique, Eric Biegala.
Depuis son accession au pouvoir en 1994, 3 ans après l'indépendance, Loukachenko a entrepris de re-soviétiser son pays, nationalisant des pans entiers de l'économie, de l'industrie lourde à l'agriculture en passant par les services. Économie subventionnée, emploi garanti, avec comme ressource principale pour faire fonctionner le système, les hydrocarbures russes. Minsk reçoit en effet gaz et pétrole à prix cassé, qu'il revend ensuite à des clients européens au prix du marché, empochant au passage de très confortables marges qui ont représenté jusqu'à 10% du PIB du pays certaines années. Minsk exporte aussi, machines-outils, véhicules ou produits laitiers, mais essentiellement vers la Russie, des produits qui ne sont d'ailleurs compétitifs qu'à cause du faible coût en énergie pour les produire. En échange de cette manne pétrolière, la Biélorussie renvoie à Moscou presque rien en fait, sinon d'indéfectibles protestations d'amitié, au point que cette politique a été surnommée dans un premier temps « pétrole contre bisous ». Mais depuis 10 ans, la Russie conditionne de plus en plus souvent sa générosité pétrolière à une intégration toujours plus étroite de la Biélorussie. Les bisous ne suffisant manifestement plus à Vladimir Poutine, pour chaque concession russe sur le tarif des hydrocarbures, Loukachenko a souvent dû lâcher quelques éléments de souveraineté biélorusse en échange.
Et pour comprendre le régime d'Alexandre Loukachenko, rendez-vous sur francecultur.fr. Témoignages et documentaires sont à découvrir sur notre site. C'était attendu, Joe Biden a été officiellement désigné candidat du Parti démocrate hier soir pour l'élection présidentielle américaine du 3 novembre. La majorité des délégués ont voté pour lui lors de la convention démocrate qui se déroule entièrement en ligne à cause de la pandémie. À l'heure de la rentrée, une polémique grandit au Royaume-Uni. Des élèves recalés de l'université ont forcé le gouvernement à abandonner son algorithme de notation cette semaine. Ils ont manifesté régulièrement pour dénoncer ce programme informatique utilisé pour noter les 300 000 candidats au bac, version britannique, mais qui n'ont pas pu passer l'examen à cause du confinement. Or, ce programme corrigeait les notes du contrôle continu en tenant compte des performances passées des écoles. Les élèves des quartiers défavorisés ont donc été pénalisés, Maxime Tellier.
Alors évidemment, les algorithmes n'ont pas inventé les biais ou les préjugés qui existaient bien avant l'ère numérique où nous vivons aujourd'hui. Mais ces programmes informatiques ont tout de même un fâcheux défaut.
Ils reproduisent des choix de société et des choix politiques.
Caroline Lequenrot est maître de conférence en droit à l'Université de Côte d'Azur, spécialiste des algorithmes, et très critique vis-à-vis de cet algorithme choisi puis abandonné par le gouvernement britannique.
Si par exemple dans votre établissement, jamais aucun A, la meilleure note, n'a été attribué, vous n'avez aucune chance d'obtenir, de décrocher le A. On a clairement une projection du passé sur l'avenir, au travers notamment du recours à l'historique de l'établissement.
Et dans cet exemple, l'algorithme a en fait systématisé et accentué des inégalités entre élèves au lieu de les corriger. L'idée était pourtant louable au départ et visait à comparer plus équitablement les notes des candidats au bac et au brevet basées uniquement sur le contrôle continu cette année.
Je ne suis pas certaine qu'il y ait une solution, on va dire, idéale. Pour autant, il faut quand même qu'un certain nombre de garde-fous soient posés si on décide d'adopter ces modèles statistiques. Et une des voies, c'est d'impliquer en amont et en aval l'ensemble des intérêts en présence pour faire des choix. Parce qu'une modélisation algorithmique, c'est un ensemble de choix politiques finalement.
Et des garde-fous légaux existent aussi hein, grâce au règlement général sur la protection des données, le RGPD, entré en vigueur il y a 2 ans en Europe, qui impose notamment un traitement loyal, licite et transparent des données.
France Culture 8h09, Margot Delpierre, il sera bientôt obligatoire de porter un masque au travail.
La mesure entrera en vigueur le 1er septembre et l'obligation sera valable presque partout, y compris dans les open space. On pourra en revanche enlever le masque dans les bureaux individuels. La décision est tombée hier après 2 heures de visioconférence entre la ministre du Travail et les représentants syndicaux et patronaux. Qu'en pensent les salariés ? Anne-Laure Jumet s'est rendue dans le quartier d'affaires de la Défense, près de Paris.
Il y a ceux qui trouvent cela parfaitement normal, comme Catherine, qui travaille dans une caisse de retraite complémentaire.
Je pense que c'est une protection. Pour moi, c'est la santé qui prime avant tout.
Et puis d'autres ont du mal à voir comment ça va s'appliquer dans son entreprise, une société de gestion. Jessica n'a aujourd'hui pas l'obligation de porter le masque quand elle est assise à son bureau. Cette nouvelle règle, c'est donc une contrainte.
Je ne me vois pas sur mon bureau avec le masque toute la journée. Déjà, je le porte dans les transports. Là, quand il y avait la canicule, c'était impossible. Donc, toute la journée... Je ne pense pas que ça va être respecté.
Il faudra aussi porter le masque en salle de réunion. Pas le choix pour Alexis, salarié d'un groupe industriel du CAC 40, même si, reconnaît-il, ce sera moins convivial.
Ça va perdre un peu l'intérêt de la salle de réunion où, entre guillemets, on pouvait un peu plus respirer. On avait déjà la distanciation qu'on s'était imposée, c'est-à-dire une chaise sur deux. C'est vrai qu'avoir le masque en plus, ça perd un peu de contact humain. Les managers seront là pour nous rappeler à l'ordre si... Là, nous n'a pas de masque, ça c'est sûr.
Et dans son entreprise où les salariés sont revenus au bureau, se posera bientôt à nouveau la question du télétravail avec beaucoup d'interrogations.
Et surtout le problème des gardes d'enfants, si les écoles ne peuvent pas les prendre, c'est-à-dire que les parents doivent s'en occuper. Je pense qu'il y aura des nouvelles dispositions la semaine prochaine.
Dans d'autres sociétés, le télétravail est déjà acté, comme dans ce grand groupe immobilier où travaille Virginie.
Avec le directeur, on a vu que on va conserver le télétravail quand même au moins 2 à 3 jours par semaine. Et heureusement, il y a ça, hein, parce que quand on fait une heure de transport, ils doivent penser quand même à notre santé.
Le télétravail reste d'ailleurs recommandé par le gouvernement, notamment dans les zones de circulation active du virus.
Car ce virus circule toujours. 2238 nouveaux cas positifs à la Covid-19 ont été enregistrés hier en France, soit plus de 16 000 sur la semaine. Dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les contaminations continuent d'augmenter, mais pas les hospitalisations. Malgré tout, l'Agence régionale de santé a demandé aux hôpitaux des Bouches-du-Rhône d'activer le plan blanc. Les établissements doivent rendre des comptes sur les passages aux urgences, anticiper la réouverture d'unités Covid ou encore informer sur leur stock. Le personnel hospitalier se tient toujours prêt. Exemple à Marseille avec Mathilde Vinceneux.
C'est ici, à l'hôpital Nord, que se concentre l'accueil des patients Covid en réanimation. Ils sont 4 en ce moment dans l'unité dédiée. Une unité dans laquelle le docteur Duclos a travaillé en renfort au printemps. Il est anesthésiste réanimateur et la rentrée ne l'inquiète pas vraiment.
Inquiet non, puisque à la fois en termes d'organisation et en termes de personnel, les équipes sont entraînées et le plan de développement des lits est déjà conçu. Donc si jamais il devait y avoir une nouvelle vague de patients Covid, on serait en capacité de les accueillir.
Au plus fort de la crise, l'hôpital Nord a quasi doublé ses lits de réanimation. Pour ça, il a fallu être créatif.
Vous mettez des patients où vous pouvez, c'est-à-dire à peu près partout, en essayant de définir des postes de réanimation, c'est-à-dire avec un scope, un ventilateur.
L'hôpital a d'ailleurs depuis augmenté ses stocks de ventilateurs, de masques, de blouses. Les moyens matériels sont là, mais il faut faire attention au personnel. Olivier Bonneau, délégué syndical CGT.
On se retrouve aujourd'hui l'été avec un niveau de fatigue quand même élevée. Par exemple, sur les personnels de nuit, on atteint chez les aides-soignants quasiment 50% d'absentéisme. Il n'a jamais atteint un tel niveau.
Il espère donc que les dernières semaines de vacances vont aider les plus touchés à reprendre des forces avant l'automne.
La rentrée se prépare sur tous les fronts. Qu'en sera-t-il pour le secteur culturel en pleine crise sanitaire et économique? Les différents acteurs du spectacle vivant ont besoin de précision. Ils seront reçus à partir d'aujourd'hui par Roselyne Bachelot. La ministre de la Culture les entendra un à un, patron de salles de concert, de théâtre, producteur, diffuseur ou tourneur. Pour l'instant, l'incertitude demeure, comme à la Scala, salle parisienne fermée depuis mars, Anne Lamotte.
À la Scala en ce moment, c'est le chantier. On construit une nouvelle salle de spectacle. Mais surtout, on s'interroge. Dans moins d'un mois, sur cette nouvelle scène, l'humoriste Jason Brokers doit se produire. Peut-être devant 50 personnes au lieu de 100. Un public disséminé et masqué. Dans ces conditions, le rire peut-il circuler?
Ce qui est drôle, par exemple.
François Hubert est le directeur technique de la Scala.
C'est d'entendre le sketch, mais aussi entendre la personne à côté qui est en train de rire. Et si on dilue tout ça sur une distance, et à un moment donné, le public... Ah ben non, je ne vais pas rigoler parce que j'entends pas l'autre personne rigoler.
Et encore faut-il que le spectacle ait lieu. Idem pour la pièce programmée dans la grande salle de la Scala. Une histoire d'amour d'Alexis Michalik, auréolée de son récent Molière. Les comédiens pourraient jouer devant un demi-public, 250 personnes, concède le directeur Frédéric Biessy, mais à une condition.
Il faut nous soutenir.
La Scala a déjà perdu plus d'1 500 000 euros, alors pas question pour lui de réduire la jauge sans aide financière.
C'est moins catastrophique de ne pas rouvrir que de rouvrir, puisque j'ai 250 personnes dans ma salle où j'en ai 500. De toute façon, j'ai toujours mes 6 ouvreurs, j'ai mon service de sécurité à temps complet, j'ai ma billetterie qui doit être là au complet, parce que c'est très compliqué de gérer des salles en laissant un fauteuil sur deux, beaucoup plus que de prendre des places qui sont les unes à côté des autres. Et donc, mes charges restent les mêmes pour une recette qui est divisée en deux. Et tous les gens qui peuvent dire aujourd'hui, les théâtres qui disent, de toute façon, quoi qu'il arrive, je rouvre, parce qu'ils n'en peuvent plus de ne pas jouer, je leur laisse 15 jours pour arrêter.
Frédéric Biessy, prudent donc, ne pas rouvrir l'Escala à tout prix le mois prochain, surtout, conclut-il, si le virus revient en force.
L'ex-adjoint à la culture, Dan Hidalgo, se met en retrait du Conseil de Paris. Christophe Girard est visé par une enquête pour viol après avoir été très critiqué pour ses liens avec l'écrivain Gabriel Matzneff. Un homme l'accuse d'avoir entretenu une relation abusive avec lui lorsqu'il était mineur dans les années 90. Christophe Girard conteste toute relation sexuelle et dit se réjouir de l'ouverture d'une enquête qui lui permettra de démontrer qu'il n'y a pas d'infraction, selon son avocate. Il faut s'attendre à des averses sur le quart nord-ouest de la France. En revanche, de Bordeaux à Nice, sur le sud du pays, le soleil va briller. Au plus chaud de la journée, Météo France prévoit 25 degrés à Lille, 22 à Paris, 27 à Metz, 31 à Grenoble et 32 degrés à Bordeaux.